position peut-être un peu plus optimiste que je voulais aussi donner, à travers une histoire que je vais vous raconter. En fait, vous verrez, c'est peut-être un petit peu un geste au niveau texte, mais c'est l'histoire, effectivement, que m'a demandé de raconter donc, Marie, de comment une grande université scientifique comme l'UPMC a été confrontée à des problèmes de réabonnement qui n'étaient plus possibles à des revues à travers un énorme publisher comme Elsevier. Alors, ce qui a déclenché un petit peu le problème, parce qu'il faut bien se rendre compte que on n'est pas a priori ouvert, prêt à faire de l'open access comme ça, ça ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain. Les chercheurs, ils ont des remis ici, je vais en parler un petit peu après, d'autres en parleront après moi, certes, notamment. On suit une routine et on n'est pas, on va pas systématiquement déposer dans des archives ouvertes, sauf quand les bibliothèques commencent à nous dire « Ah ben, on ne peut plus vous abonner à cette revue-là ». Et c'est ce qui a commencé à se produire avec les gros publishers, notamment Elsevier. Et les éléments déclencheurs, ça a été cette prise de conscience qu'on n'allait plus pouvoir payer les abonnements énormes et qui étaient demandés donc, par ces gros publishers qui regroupent, et ça Pablo vient d'en parler, qui regroupent un nombre important, ici c'était plus de 1800 titres, auxquels on s'abonne et auxquels on n'est absolument pas intéressé, pour 75% des titres en question. Donc il y a toute une politique d'obligation qui était faite par les gros publishers d'acheter un bouquet à des tarifs qui étaient bon, pas très très chers finalement, si on regarde le prix de chaque revue, mais qui étaient dissuasifs parce qu'on aurait pu dire voilà, on va choisir simplement les quelques 600 titres, pas 600, 400 titres qui nous intéressent là-dedans, et puis on va s'abonner, ça ne coûte pas beaucoup moins cher. Mais non, les tarifs préférentiels faits pour ce bouquet faisaient que ces tarifs étaient dissuasifs par rapport à l'abonnement à des revues isolées, en particulier. Alors, en plus, il y avait le problème de ces abonnements, de l'augmentation annuelle, qui avant les années 80 était autour de 2 chiffres en pourcentage, hein, ce qui est quand même considérable, et qui est devenu, qui s'est un petit peu ralenti autour des années 2005-2007, pour se stabiliser autour de 5%, ce qui était quand même sans rapport avec l'augmentation des crédits que pouvaient recevoir les universités et à plus forte raison les bibliothèques, et qui devenait donc à terme insoutenable. Et en plus, bon, je parle d'un petit détail, il était difficile de se désabonner, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas diminuer, c'est ce qu'elle s'est dit et que les autres publishers appellent le chiffre d'affaires historique, qui est en fait le volume auquel vous êtes abonné, bon, ils acceptaient 1% par an, ce qui était quand même. Alors, je reviens un petit peu à l'aspect historique qu'a largement évoqué Pablo tout à l'heure. Voilà. Donc, les grands points de repère, c'est la création d'Archive, de ce qui sera plus tard Archive au début des années 90. Ensuite, on peut sauter, bon, il y a beaucoup d'évolutions, des initiatives que le médecin central a créé pour la médecine, etc. Et puis, c'est là l'initiative de Budapest en 2002, suivie de la première déclaration de Berlin en 2003, et qui est suivie ensuite de ça. Et comment ça s'est présenté pour notre université? Ben nous, on commençait donc à partir de ces éléments déclencheurs dont je vous ai parlé à l'UPMC, où on a quand même un petit peu moins de 4000 chercheurs, ça fait quand même déjà beaucoup de monde. On a commencé à se poser cette question, est-ce que la solution, ce ne serait pas de verser dans les archives ouvertes? Et ça a fait son chemin tout doucement, parce que bon, 4000 chercheurs, c'est lourd, une grosse institution comme ça, c'est lourd à manœuvrer. Il a fallu attendre 2010 pour qu'on signe déjà la déclaration de Berlin. Alors, je vais vous rappeler un petit peu ce que disait cette déclaration. déclaration de Berlin qui est quand même importante, parce qu'elle situe bien la problématique et puis les solutions. Elle porte donc sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales, et les signataires réclamaient la mise à disposition de la littérature scientifique mondiale. Et pour ça, ils souhaitaient qu'on encourage les chercheurs qui ont aussi publié leurs travaux en libre accès, agir pour que les publications en libre accès soient jugées lors des évaluations et intervenant dans le cadre de la promotion professionnelle et illustrer les véritables parcelles du libre accès par le développement d'outils, etc. Alors, fin 2012, il y avait 360 signataires de cette déclaration qui, au début, a été signée par des individuels, puis ensuite par des grosses EPST et certaines universités. Et nous entrons là-dedans seulement en mai 2010. Mais c'est déjà un premier élément. Et c'est à partir de là que la crise va se nouer, parce que ce régime de monopole d'Elsevier s'accompagne en plus d'une négociation tarifaire à l'échelon national, qui est menée par Comprin, je pense qu'on en reparlera aussi dans les détails ici, mais cette négociation tarifaire se fait de manière relativement opaque, dans la mesure où les universités sont informées, mais on n'a pas le droit de publier, notamment les contrats, comme on en a parlé tout à l'heure, tout ça ouvre la porte à une intimidation de la part d'Elsevier qui menace de, si quelqu'un se veut se retirer du groupement d'achat, qui en fait partie du PMC, eh bien, menace de couper les. D'abord, de faire payer beaucoup plus cher les autres, et comme nous avions, nous, un chiffre d'affaires qui était de l'ordre de 1 million d'euros par rapport au chiffre que tu présentais tout à l'heure, c'était toute la documentation, donc c'était 1 million d'euros rien qu'avec Elsevier. Bien sûr que les autres universités, les petites universités notamment, voient d'un mauvais œil la possibilité de tout d'un coup se retrouver avec l'obligation plutôt de payer, de répartir ces 1 million d'euros sur l'ensemble des universités, dont les petites. Donc l'UPMC avait d'abord cherché à se retirer de ce consortium et de ces négociations, mais vu les pressions des autres universités, finalement était resté dans le rang. Mais on avait expliqué que au moment où la négociation allait se remettre en route, donc en 2010, on serait peut-être amené à prendre des mesures un peu plus drastiques. Et on a commencé, et c'est là que je voudrais un petit peu insister là-dessus, on a commencé à travailler avec, comme on dit, la base. Hein, parce que c'est clair, ce n'est pas des décisions du sommet qui arrivent à faire avancer ces choses-là. On a essayé de motiver un petit peu les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les doctorants à cette question, à travers le directeur de la recherche du PMC, les UFR, qui nous ont tous soutenus à partir de mai 2010, on a commencé à faire cette information, qui nous ont soutenus tout à fait sans aucune réticence, et qui nous ont confortés dans l'idée de nous retirer de ce groupement de commandes, à nos risques et périls, et peut-être aux risques et périls du groupement de commandes, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et on a fait valider cette décision par un conseil scientifique d'université, puis une AG, des directeurs d'unité. Donc les choses étaient bien ancrées, je dirais, dans la base de l'université pour pouvoir, avec un certain poids, intervenir au niveau de la négociation. Et comme toujours, Elsevier fait ses derniers. Bon, le contrat se terminait fin 2010. Elsevier fait toujours ses propositions, ses dernières propositions au mois de décembre, au moment où il est difficile de retourner vers sa base. C'est pour ça qu'on avait pu assurer un petit peu notre base au départ. Et Elsevier, dans ses dernières propositions, impose le maintien du chiffre d'affaires historique des établissements. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de diminuer l'enveloppe budgétaire, donc un peu plus d'un million d'euros. Et donc, il n'est pas possible, ça ne laisse absolument pas la possibilité aux universités comme la nôtre de mener une politique documentaire qui correspond. ce projet de contrat est avalisé dans un premier temps par les universités CNRS, sous prétexte, et c'est bien réel, je pense, de ne pas risquer de pénaliser la desserte des communautés scientifiques dont ils dépendent, qui sont avec eux, ne pas les pénaliser dans la desserte des revues. Et alors, on prend la décision, le président de l'UTLC informe officiellement les négociateurs de comprendre que l'UTLC se retire du groupement de commandes. Bon, c'est un peu lourd comme texte, je résume un peu ça. Elsevier tente alors à ce moment-là, donc en décembre, fin décembre 2010, de contraindre, parce que le CNRS, à ne plus servir, puisque l'UTLC se retire. L'UTLC, c'est quoi? C'est des chercheurs. Des chercheurs dépendants pour la plupart et pour la grande majorité du CNRS et d'autre part des enseignants-chercheurs dans des labos qui sont pratiquement uniquement des UMR, CNRS, UPMC, et donc desservi aussi par le CNRS pour les revues Elsevier. Donc, on avait un petit peu préparé nos arrières en disant si Elsevier coupe les robinets côté UPMC, on pourra toujours se servir du côté CNRS. Alors, Elsevier, bien sûr, s'entend bien de retournement un petit peu de fermeture de robinet et d'enclave, Elsevier, à ce moment-là, fait pression sur le CNRS en lui demandant de s'engager par écrit à ne plus desservir les enseignants-chercheurs de l'université. Alors, là, bon, je dois dire qu'on a bénéficié d'un soutien massif du CNRS à ce moment-là, c'est-à-dire pour un responsable de 10 à ce moment-là, il nous a soutenu vraiment à fond avec l'accord du président Alain Fuchs. Et. Non, c'était Alain Fuchs déjà. Et. Elsevier, à ce moment-là, menace de refuser et au CNRS et à l'UPMC bien sûr, de leur couper la ressource, et donc de couper finalement, prendre le risque de couper toute sa forme de l'accès aux revues etc. Mais, alors tout ça laisse passer et mi-janvier, Elsevier finit même par reprendre contact avec le PNC, et une négociation marathon va s'engager sur la fin janvier, essayer de résoudre ce problème. Alors, les demandes de l'UPMC sont tout à fait claires. On demande un désabonnement, ce que je rappelle, une réduction du chiffre d'affaires historique, de l'ordre de 300 000 euros, soit environ 30% de ce chiffre d'affaires. Et la négociation se fait via c'est très compliqué, il y a des conflits chaque jour, la présidence répond, etc. Et finalement, on arrive quand même à obtenir, en termes de cette négociation, une réduction de l'ordre de 21% de ce chiffre d'affaires historique et un engagement de l'éditeur, du publisher, de mettre au point un nouveau modèle économique dans les deux ans qui viennent, et c'est-à-dire que fin 2012, Elsevier s'engageait à fournir un nouveau modèle économique, c'est-à-dire une nouvelle clause d'abonnement, sachant que notre demande, la demande de Couperin globalement, et plus particulièrement du PMC, était d'être maître de ses choix en matière de revues et donc du coût qui avait. Alors, là j'ai mis une petite déclaration du vice-président de l'époque de l'UPMC, qui est maintenant notre président, qui disait, si certaines voix s'élèvent sans doute pour indicativement que l'UPMC a défendu sa propre cause, on pourra surtout regretter que suite à l'affirmation de la position de l'UPMC dès juin 2010, d'autres établissements n'aient pas emboîté le pas, etc. Donc, effectivement, il y a eu quand même énormément de solidarité est évident dans cette affaire, qui se justifie, je vous l'ai déjà un peu dit, par le fait qu'il y a des petites universités, il y a des grosses universités dans ces mouvements, que les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes, et que ça explique que la solidarité est souvent difficile. Néanmoins, il y a eu donc beaucoup de pression auprès du président de l'époque pour accepter les conditions d'Elsevier. On les a acceptées et je pense que c'était effectivement une demi-victoire. Pourquoi? Parce que même si le chiffre d'affaires du PMC a été diminué de 20 à quelques pourcents, le contrat qui a été signé 3 ans et a prévu tout de même une hausse des tarifs qui était absolument pas négligeable, qui était de plus de 4% par an, entre 4 et 5%. Or, à la même époque, une étude faite par un cabinet financier international, Bernstein Research, prédisait que le taux de croissance d'Elsevier serait inférieur à 2% au cours des années suivantes, et que si le refus du Big Deal, c'est-à-dire de ces abonnements Freedom de 1800 titres et plus, s'il y avait une contestation qui s'étendait à un certain nombre de pays, cette croissance pourrait même être inférieure. Donc, ils annonçaient en mars 2011 que la politique des Elsevier allait être de chercher à bloquer sur 3 ans des contrats de consensus, comme celui dont je viens de vous parler, avec des taux supérieurs à 4%, quitte à lâcher un peu sur certains espèces. Et c'est exactement ce qui s'était produit avec nous. Donc, je pense qu'on peut parler seulement d'une demi-victoire. Alors, à la suite de ça, je continue toujours sur Elsevier parce que c'est quand même très révélateur de la politique générale des publishers. Tu as montré tout à l'heure les chiffres de Springer et de Wiley, qui sont quelquefois même supérieurs en augmentation annuelle et dont la politique est grosso modo à peu près la même. Quelles étaient les perspectives qu'avaient ces gros publishers à l'époque en reconduisant ces contrats que je qualifie un peu de léonins? Eh bien, c'est qu'ils sont conscients, je vous ai dit ce que prédisaient les cabinets d'affaires financiers, ils étaient conscients qu'à terme, le modèle actuel de publication et d'abonnement allait disparaître. Alors, à quel terme? Ça, c'était une autre question. Mais que ça allait disparaître et que le libre accès allait se développer. Et donc, ils allaient miser maintenant sur la valorisation des métadonnées qu'ils appellent. Et là, ils ont mis en œuvre tout un tas de logiciels qui sont extrêmement chers. Et aussi sur les data de la recherche. Alors là, les data de la recherche, c'est les données qui sont contenues dans les articles et dont ils voudraient bien être propriétaires. Alors, tout ça, bien sûr, est en cours de développement actuellement au niveau des grands publishers, et c'est une bagarre pour le moment au niveau des copyrights, c'est des data autour des data qui se déroulent, et je pense que rien n'est gagné pour les publishers, heureusement. Alors, je dois dire quand même que Elsevier n'a pas, ne porte pas toute la responsabilité de ça. J'ai dit que les autres gros publishers étaient également dans la même ligne. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'un certain nombre de sociétés savantes vont dans le même sens et se mettent à augmenter leurs tarifs de manière tout aussi importante. Sous des prétextes qui sont de subventionner des actions caractère entre guillemets humanitaire, mais de distribution de leurs articles, mais ce sont des arguments qui sont difficilement justifiés. Alors, ce nouveau modèle économique, là je vois que le temps passe vite, ce nouveau modèle économique auquel Elsevier s'était engagé, qui s'était engagé de discuter avec la communauté scientifique française, c'est effectivement discuté de manière très unilatérale en fait, avec un groupe de travail qui comprenait une douzaine d'acteurs français, dont les quelques grands EPST et les universités. Mais en fait, cette discussion, ça a été simplement d'imposition par des vires, d'un modèle qui ne changeait pas grand-chose par rapport au précédent, sauf qu'ils introduisaient en plus dans l'évaluation du coût de leurs abonnements, soit au module, soit à ce gros bundle de la Freedom Collection, ils ajoutaient dans les paramètres qui s'appelaient de ces abonnements l'intensité de la production scientifique de l'établissement. C'est-à-dire que non seulement on comptait ce qu'on appelle les FTE, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles d'accéder à ces publications, mais plus un établissement publie de revues, et bien plus il paiera cher, plus il paiera cher pour consulter les revues, etc. Donc, modèle inchangé, coût dissuasif, toujours des abonnements isolés par rapport à la Freedom Collection, et donc le groupe de travail a exprimé son désaccord et ne pas se trouver engagé par ce nouveau modèle. Et on en arrive maintenant à 2013, où le contrat de 3 ans était terminé, nouvelle négociation d'un contrat qui allait courir, on ne sait pas sur combien de temps, et mis dans quelles conditions financières. Sauf que le nouveau modèle qui était annoncé ne laissait pas présager grand-chose de bon. Et effectivement, la négociation donc, a été menée par Coupin, qui est donc cet organisme qui regroupe les EPST et les universités, et rapidement, on a vu qu'il n'y aurait pas de solution. Quand même, il y avait une unité, cette fois-ci un peu plus grande, du côté du groupement d'achat, et qui essayait de faire un peu plus de résistance auprès d'Elsevier. Et Elsevier, alors je ne sais pas, bon, c'est un peu mystérieux comment c'est arrivé, mais la solution d'une licence nationale, c'est-à-dire une licence payée par le ministère de la Recherche, a été poussé, et finalement c'est ce qui a été accepté. Bon, je passe un peu sur les détails qui sont peut-être un peu plus confidentiels, mais on peut penser que Elsevier a fait aussi un lobbying qui n'était pas négligeable, un lobbying qui n'était pas négligeable auprès du ministère, et finalement c'est une licence nationale qui a été prise auprès d'Elsevier. Ce qui veut dire que côté gains, c'est plus seulement 200 établissements qui allaient être desservis par la Freedom Collection, mais 440, donc certainement 640, donc 440 qui ne consultaient pas avant, je ne sais pas si ils consultent tous après, mais ça c'est une autre question. Mais surtout, ce nouveau contrat était fait, cette nouvelle licence nationale était plus pour une durée de 5 ans, avec un taux d'augmentation qui était relativement raisonnable, et encore qu'on ne doit pas pour le moment le divulguer. Et voilà, ce sont des contrats secrets, ça ne relève pas des contrats publics classiques, alors que ça devrait, ça je pense que le dossier le dira aussi, ces contrats donc ne sont pas publics, bien que ça devrait relever des contrats publics. On s'engage pour 5 ans sur un modèle qui est complètement obsolète, puisqu'on sait quand même que le libre accès maintenant fait son chemin. Donc, qu'est-ce qui a résulté de tout ça? Eh bien, ce qui a résulté, c'est que le ministère a prélevé directement l'université, notamment les autres, du montant de l'abonnement à l'UNESCO, sans demander son avis, sans. C'est une mise en place. Donc on peut voir que l'indépendance des universités, là, a été encore, d'une certaine manière, relativement bafouée, et que le choix, en tout cas, n'a pas été donné. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. Donc, ceci a coupé l'herbe sous le pied à toute résistance et à tout modèle alternatif qui aurait pu être proposé par les EPST et les universités. Donc on est face effectivement dans ce type de négociation à une multinationale. Je rappelle les chiffres, ils sont peut-être un tout petit peu différents de ce que tu as donné, mais parce que ce sont des chiffres faramineux, c'est-à-dire 36%, plus de 30% en tout cas la recherche scientifique que nous faisons. Alors, les choix du PNC. Les choix du PNC, ça a été, face à ça, depuis déjà un certain temps, d'encourager le versement dans les archives ouvertes et dans HAL, dont il sera question tout à l'heure. Donc, on voit qu'au fil des années, il y a une croissance raisonnable du dépôt des publications du PNC dans un portail de HAL, le portail du PNC, le dépôt en texte intégral augmente, que le dépôt des notices est relativement stable. Mais c'est tout de même pas un raz-de-marée dont on aurait besoin pour réellement pouvoir contrer, pouvoir passer à un autre type de fonctionnement. Hein, donc on est contraint toujours d'avoir ces abonnements extrêmement chers et on se trouve dans cette période transitoire qui est très difficile parce qu'il y a des abonnements à payer, il y a des revues qui commencent à se mettre en gold, puisque c'est le choix de Elsevier et des grands publishers de faire des gold, du gold auteur-payeur, c'est-à-dire on va payer 3-4 000 euros la publication d'un article, et d'autre part du green access qui se met en place doucement. Donc cette période intermédiaire est très difficile, et donc l'UPMC a fait le choix d'engager, d'encourager ses dépôts en donnant des facilités au niveau des bibliothèques, qui vont aider au dépôt des publications, et en se préparant peut-être à être un peu plus coercitive, en donnant obligation aux labos de, sous peine de très peu pénaliser au niveau de leur crédit récurrent, de que leurs chercheurs versent des publications dans RAL. Alors, on contribue aussi à travers BSN. BSN, c'est la Bibliothèque Scientifique Numérique. Je ne sais pas si quelqu'un va en parler dans le détail. Personne. Alors, je dis quand même deux mots, je suis déjà à 30 minutes, mais je vais aller vite. C'est une BSN, Bibliothèque Scientifique Numérique, qui est une structure qui a été créée, c'est plus la date exacte, il y a quelques années, il y a 3 ans, peut-être, quelque chose comme ça, par le ministère de la Recherche et de l'Éducation nationale pour servir de conseil et de brainstorming à des solutions pour aider à la publication scientifique et faire des propositions au ministère. Donc là-dedans, il y a donc 9 sections actuellement, la 4 est consacrée aux archives ouvertes et la 7 est consacrée aux publications. À l'édition scientifique. La 7 est très ouverte sur l'édition scientifique en libre accès, et la 4 est ouverte aux archives, se consacre essentiellement aux archives ouvertes du côté des publications scientifiques. Dans ce cadre-là, on travaille actuellement, et aussi avec le groupe Comprone, à l'élaboration d'un addendum au copyright. Donc, disons, on a mis le focus un peu sur les copyrights. C'est-à-dire, donc, c'est ce dessaisissement que font les auteurs de leur droit à diffuser l'article qu'ils ont publié. Et donc, on a un addendum qui est en cours d'élaboration, en fait, qui est élaboré, qui va être soumis au ministère, qui réserverait les droits des auteurs à mettre dans une archive, à déposer leur article dans une archive, moyennant éventuellement un délai qui, d'après la recommandation de la communauté européenne, ne devrait pas excéder 6 mois pour les revues de sciences dures, SPM, et devrait ne pas excéder 1 an pour les revues SHS. Alors là, on met le doigt un petit peu sur la disparité, les différences qu'il y a entre SHS, les sciences humaines et les sciences dures. L'UPMC maintenant fait partie d'un presse, enfin on appelle ça les presses savants, qui s'appelle Sorbonne Université, dans lequel se trouve Paris 4, Paris 2, Et là, les problèmes sont très différents parce que la publication en sciences humaines n'a pas du tout les mêmes traditions. Les gros publishers n'ont pas le même poids, pas de gros publishers, ce sont des toutes petites éditions. Donc il y a des intérêts à préserver qui sont certainement très différents. Et il y a une optimisation à faire. Et pourtant, on a montré par des études qui sont, je pense, assez peu contestables, que lorsque même en sciences humaines, on met son article en libre accès, et bien il est deux fois plus consulté que lorsque il est en désabonnement classique. Voilà. Alors donc, il y a développé cette collaboration avec les SHS. Et puis je dirais le dernier point, je n'en dirais pas grand chose, mais puis on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on voudrait aussi travailler au développement de revues qui soient en open peer reviewing, c'est-à-dire où le peer reviewing, l'évaluation par les pairs, soit faite de manière beaucoup plus transparente et soit ouvert à une discussion à l'ensemble de la communauté scientifique. Voilà, ce sont un petit peu des vues utopiques. Il y a des modèles qui sont déjà en cours, qui sont déjà proposés, et ça peut constituer en tout cas une vue d'avenir intéressante. Alors là-dedans, il y a des freins et des espoirs. Les freins, c'est l'inertie des chercheurs, mais Serge en parlait tout à l'heure. Manque de solidarité des établissements, on en a parlé. Curiosité du ministère, vous l'avez laissé entendre. Mais il y a des espoirs, il y a des jeunes. Pablo en était un bon exemple tout à l'heure. Et le BSN est tout de même un organisme dynamique qui, je pense, va être un organe de pression auprès du ministère. Et que malgré le manque de solidarité dont je parlais, il y a tout de même, face à la crise, une solidarité de fait des établissements qui se mettent.